on aborde cette question de la pollution des eaux marines. D'abord avec vous, Mathieu.
Oui, Bruno, et comme si les océans, les fleuves et les rivières du globe en avaient besoin, bien une nouvelle pollution est venue s'ajouter à la liste déjà longue des déchets qui souillent les fonds marins. Car depuis la crise du Covid et l'utilisation massive des protections médicales, eh bien les plongeurs ou les associations de bénévoles qui nettoient les plages retrouvent en très grand nombre des masques, des gants en latex, des flacons de gel ou des lingettes désinfectantes abandonnées dans la nature. Et partout dans le monde, les associations témoignent de leur lassitude et leur sidération face au spectacle désolant donc de ce plastique directement lié au Covid. Et certaines d'entre elles craignent même une pollution de grande ampleur. En effet, les masques chirurgicaux, par exemple, sont composés de microfibres de polypropylène, cette matière plastique dérivée du pétrole qui met entre 450 et 500 ans à se désagréger dans l'eau. Et pendant toute cette longue période de lente décomposition, eh bien, le plastique va donc intégrer la chaîne alimentaire et polluer durablement les écosystèmes marins. La Fondation pour la mer évoque une bombe à retardement avec ses déchets Covid qui risquent d'entraîner des dégâts irréparables sur la biodiversité marine.
Mais comment des masques ou des gants peuvent-ils se retrouver dans la mer ?
Eh bien, selon l'endroit où ils sont jetés par terre, eh bien, par exemple, les masques peuvent se retrouver en seulement quelques heures dans le milieu marin, à la faveur, par exemple, du vent, d'un gros orage. Eh bien, les masques ou les gants jetés sur les trottoirs arrivent à se retrouver en mer après avoir navigué dans les égouts et les rivières, ce qui signifie qu'il faut seulement quelques semaines pour qu'un nouvel objet introduit en masse dans la société se retrouve dans l'environnement. D'où l'importance de se débarrasser, eh bien, de ces masques et de ces gants dans la poubelle classique avec ces ordures ménagères. Beaucoup d'associations ou professionnels du milieu marin observent en ce moment même un relâchement dans nos comportements depuis le déconfinement. Il est donc nécessaire que l'on arrive à revenir à la prise de conscience qui semblait avoir émergé avant le Covid.
Est-ce que certaines mers, Mathieu, sont plus touchées que d'autres ?
Alors, difficile à dire pour le moment, Bruno, mais le phénomène est très inquiétant. Par exemple, pour la mer Méditerranée, qui est une mer fermée, déjà extrêmement polluée, une étude de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, datée de l'année dernière, avait montré même que la Méditerranée était devenue la mer la plus polluée d'Europe avec des niveaux records de pollution mettant en danger les espèces marines et la santé humaine. Alors qu'elle ne représente que 1% des eaux marines à l'échelle de la planète, la Méditerranée concentre à elle seule 7% de tous les microplastiques qui sont donc des fragments de plastique de moins de 5 mm. Cette pollution s'explique notamment par les grosses difficultés en matière de collecte des déchets plastiques dans certains pays du pourtour méditerranéen. Aujourd'hui donc, Bruno, c'est la journée mondiale de l'océan, vous l'avez dit, une occasion de célébrer cet écosystème vital et de plus en plus fragile, qui couvre, rappelons-le, 70% de notre planète.
Bonjour Jean-François Guiglione.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, écotoxicologue à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Vous avez été le directeur scientifique de la mission Microplastique 2019 de Tara Océan et vous êtes également coordinateur de la société Plastique at Sea. Sur la pollution des mers et des océans, nous attendons les questions des auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Intervenir. Mais la première question, c'est pour Mathieu Vidard.
Oui, Jean-François Guiglione, cette pollution par les déchets Covid, on va commencer par évoquer cela, alerte déjà toutes celles et ceux qui sont en contact tous les jours, je le disais, avec le milieu marin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment justement un masque jeté par terre sur un trottoir peut quelques jours plus tard se retrouver au fond de la mer Méditerranée, par exemple ?
Oui, Mathieu, comme vous le disiez, en fait, par peur de ramener un déchet souillé par le Covid à la maison ou par négligence, on a vu des comportements qu'on pensait ne voir de moins en moins. On a de plus en plus de masques et de gants qui sont jetés sur les trottoirs. Alors, où est-ce que ça va aller ? Ça va aller ensuite dans le caniveau, puis ensuite aller dans l'égout. Aujourd'hui, on voit dans les égouts que ça bouche les canalisations et les systèmes d'assainissement, tellement il y en a. Et puis en fait, il faut pas imaginer que l'égout ça reste là. Les égouts sont pas traités, ça va aller ensuite dans les fleuves et malheureusement finir dans la mer et augmenter la concentration de plastique qui est déjà alarmante dans les océans.
Et est-ce que ces déchets sont particulièrement toxiques, Jean-François Guiglione ?
Alors pas plus que des déchets plastiques classiques, hein. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, en fait, les masques chirurgicaux et FFP2 en fait sont réalisés en polypropylène. Ce polypropylène, c'est le deuxième polymère qu'on trouve en mer après le polyéthylène et entre le polyéthylène et le polystyrène. En fait, les plastiques, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils vont durer plusieurs dizaines d'années pour se dégrader. Les masques chirurgicaux, ils sont faits en couches fines de polypropylène, donc peut-être que ça va durer un tout petit peu moins longtemps parce que ça va se fragmenter plus vite. Mais malheureusement, en fait, ça va se transformer en quelque chose qui sera pas visible, mais persistant. C'est ce qu'on appelle les microplastiques. Et ces microplastiques, qui sont la taille de moins de la taille d'un grain de riz, ils vont malheureusement perturber toute la chaîne alimentaire puisqu'ils vont être ingérés par tous les animaux.
Mathieu Vida.
Oui, ce sont donc ces microplastiques qui vont pouvoir durer 400, 500 ans. C'est ce qu'on lit en tout cas sur la durée de désintégration de ces matières. Quels sont leurs effets aujourd'hui sur les écosystèmes marins? Qu'est-ce que l'on sait exactement?
Alors, les microplastiques, c'est vrai que la durée de vie, on ne sait pas exactement. En fait, il y a une telle diversité de plastiques aussi que c'est difficile de dire qu'ils vont durer entre 10 ans, 100 ans, 1000 ans. On n'a aucune idée en fait aujourd'hui, et il y a vraiment beaucoup de recherches à faire encore dans ce domaine-là. Après, les effets, ils vont être différents. En fait, le premier, ça va être l'ingestion. Les animaux vont ingérer des plastiques. Et vous parliez de la Méditerranée tout à l'heure. On a en Méditerranée autant de microplastiques que de zooplancton dans certaines zones de Méditerranée. La plupart du temps, c'est 15%, mais on peut aller jusqu'à 50%. Et ça, en fait, comme ça se confond avec le zooplancton, les poissons vont manger en fait ces plastiques en confondant avec le zooplancton, et ensuite ça va se mettre dans leur estomac. Et imaginez en fait la moitié de votre assiette qui est remplie de plastique. Ben là, évidemment, en fait, ça commence à poser des problèmes, notamment en fait de nourriture, puisqu'on a des poissons qui meurent de faim à force d'ingérer du plastique. Et puis le deuxième effet, ensuite, ça va être l'effet des polluants qui sont dans le plastique et qui vont s'accrocher sur le plastique. Pour faire un plastique, en fait, il n'y a pas que le polymère, il y a aussi des additifs qu'on met à l'intérieur, dont des perturbateurs endocriniens comme le phtalate, les bisphénols, etc., qui vont donner la propriété au plastique, sa propriété plus ou moins dure, molle, des retardateurs de flamme, des couleurs, etc. Et tous ces polluants, en fait, ils vont être relargués dans l'organisme de tous les animaux de la chaîne alimentaire. Et puis, malheureusement, en fait, il y a un troisième effet, c'est celui que les plastiques, hein, ils sont hydrophobes, ils sont huileux, et donc ils vont attirer tout ce qui est huileux, et notamment tous les polluants. Donc on voit beaucoup d'hydrocarbures, de pesticides, etc., qui vont s'accrocher sur les plastiques, et quand ils sont ingérés par les organismes, aussi ils vont avoir des effets délétères.
Mathieu parlait de la pollution particulièrement préoccupante en Méditerranée, 1% des eaux marines, mais 7% de tous les microplastiques. Comment est-ce qu'on explique cette pollution particulièrement forte en Méditerranée? Mathieu évoquait la collecte des déchets plastiques. Il y a d'autres explications?
Oui, la Méditerranée est une mer un peu particulière. On a fait une expédition en 2014 avec la Fondation Tara Océan pendant 7 mois, et on a pu montrer en fait que la concentration de microplastiques, en particulier donc ces tout petits morceaux de plastique, était effarante en fait en Méditerranée, plus importante que celle qui est plus connue dans le Pacifique Nord sous le nom de septième continent. Ouais. Donc on a à peu près les mêmes concentrations. On a 1,2 million de fragments par kilomètre carré. Vous imaginez, en fait, c'est complètement dilué dans la Méditerranée. Et le pourquoi de ça, c'est que la mer Méditerranée, c'est une mer presque fermée. Il faut 90 ans en fait pour que l'eau circule, entre et sorte de la Méditerranée. Et comme le temps de vie des plastiques, il est estimé à plus de 90 ans, on a aujourd'hui des estimations à une augmentation de 8% du plastique d'ici 2030 en Méditerranée, malheureusement.
Thierry au Standard de France Inter. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous nous appelez de bord de mer, vous nous appelez de l'Orient.
C'est vrai. Quasi systématiquement, lorsque l'on aborde les problèmes de pollution des océans, arrive en tête de liste le plastique, donc les matières visibles par nous autres les humains. Mais qu'en est-il exactement de toute la chimie produite par ces mêmes humains et qui se retrouve potentiellement dans les océans? Comment est-elle digérée? Comment est-elle recyclée? Et peut-elle se retrouver également dans l'alimentation humaine au travers des moules, au travers des huîtres? Voilà.
Jean-François Guiglione sur les effets de la pollution chimique.
Ouais, c'est important de souligner effectivement qu'il n'y a pas que le problème de la question du plastique dans les océans. Il faut bien comprendre que la mer, comme on l'a expliqué avec un morceau de plastique, ça va être le réceptacle final de tous nos déchets. Tous nos déchets, en fait, vont finalement arriver dans une rivière, puis après un fleuve, puis après arriver en mer. Et en fait, on a surtout dans les zones côtières, donc près des côtes, les effets de l'agriculture intensive, donc des pesticides, de l'industrie. Mais les plastiques ont cette capacité particulière d'aller plus loin que la côte, parce qu'ensuite un polluant classique, en fait, il va rester à la côte, puis après il va se diluer dans l'océan. Le plastique, lui, en fait, c'est un vrai radeau qui, comme il va durer longtemps et qu'il va flotter, il va aller un peu partout, et on en trouve vraiment partout dans tous les océans. À chaque fois qu'on a fait des expéditions en mer, on trouve ces plastiques. Alors, les effets des autres polluants, effectivement, sur l'alimentation, qui était posée par Thierry, eh bien, en fait, on a quand même vraiment des bonnes régulations qui font qu'on est à peu près sûr de ce qu'on mange, dans le sens où, à partir du moment où il y a des polluants qui sont détectés dans ce qu'on mange, évidemment, en fait, ils sortent des produits de consommation. Donc, à ce niveau-là, en fait, même si c'est dramatique pour l'environnement marin, au niveau de la consommation humaine, il y a beaucoup moins de danger, surtout dans nos pays.
Mathieu Vidard.
Oui, Jean-François Guiglione, on a quand même le sentiment que la mer a une capacité de résilience très forte. Est-ce que, par exemple, la salinité favorise quand même le nettoyage des polluants en mer ?
Pas du tout. Pas du tout. En fait, le fait que l'eau soit salée ou pas, ça va de toute façon en fait, affecter les polluants qui vont beaucoup se mettre sur des particules, et il y a énormément de particules dans les océans, donc et qui vont participer aussi à l'alimentation des animaux et une accumulation le long de la chaîne alimentaire. Donc la mer, comme les fleuves en fait, va être particulièrement perturbée en fait par tous les polluants qu'on va lui amener.
Question remarque de Vincent sur l'appli France Inter. Du caniveau à l'océan, dans beaucoup de grandes villes, ça ne passe même pas par les stations de traitement des eaux usées, car le caniveau se déverse dans un réseau dédié, réseau dit pluvial, qui se déverse directement dans le cours d'eau voisin. Peu de gens ont conscience de l'existence de ce réseau pluvial et de sa connexion directe sur les fleuves. Vous confirmez, Jean-François Guiglione?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a toujours l'impression qu'on protège la mer avec nos stations d'épuration. Les eaux pluviales vont directement en fait dans les océans. Donc, comme on le disait, le fait de jeter négligemment un masque ou un gant sur le trottoir, eh ben l'effet il va être assez direct sur les océans. Et comme le disait Mathieu au départ, en fait, on a fait l'année dernière avec la Fondation Tara Océan une expédition sur tous les fleuves d'Europe, donc la Tamise, l'Èbre, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, l'Elbe, le Rhône et le Tibre. Et en fait, on a regardé la pollution en fait dans ces différents fleuves, notamment du plastique. Et en fait, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. On va retourner ce mois-ci, au mois de juin, c'est un peu la course contre la montre, pour aller regarder les macro-déchets et avoir une situation avant le Covid et après le Covid, avec l'idée de regarder en fait si on a beaucoup plus de masques, beaucoup plus de gants et beaucoup plus d'emballages de manière générale, parce qu'il y a aussi, pendant le Covid, une flambée en fait de la consommation des emballages.
Et il y a Jean au Standard qui suggère qu'aucun masque ne soit vendu sans qu'on en rapporte un. Faudrait faire une consigne avec les masques et les recycler. Voilà une idée. Michel au Standard de France Inter, bonjour Michel.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de la Vallée de Chevreuse.
Oui. Moi, j'ai une question qui m'est venue là, c'est que elle pourrait s'intituler bateaux et poubelles jaunes. Alors, les bateaux de pêche, ils voient que, je pense qu'ils jettent pas leurs poubelles entre guillemets jaunes, donc tout ce qui est pas recyclable, tout ce qui est recyclable ou enfin plastique. Je pense qu'ils font attention parce qu'ils se sont aperçus que ça allait dans l'estomac des poissons. Pour les pêcheurs, ça va. Mais pour les gros bateaux de croisière et autres, là, est-ce qu'ils ont des conteneurs? Est-ce que quand ils arrivent au port, il y a les poubelles qui viennent, comme ils viennent chez moi, quoi, ils viennent les chercher? Moi, je suis curieux de savoir.
Que font les gros bateaux de leurs déchets, Jean-François Guiglione?
Alors, ce qu'il faut savoir, et en tant que scientifique, je peux pas répondre à toutes les questions. Hein, je pourrais pas dire exactement la part qui vient des bateaux de croisière versus des pêcheurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la pollution en mer vient de la terre. Donc, il est évident en fait que quand on va chercher des solutions, elles vont venir forcément de la terre. Les bateaux de croisière, comme tous les bateaux en fait, ont obligation de ramener leurs déchets au port, et ensuite les déchets sont triés comme des déchets classiques. Néanmoins, il y a encore 20% de la pollution qui est en mer, et il y a encore du travail à faire là-dessus, hein, comme partout. Mais le plus gros du travail aujourd'hui vient de nous en fait, des consommateurs. La plupart du temps, c'est à peu près 40 à 50% en fait de la pollution qui arrive en mer, elle vient du consommateurs, et ensuite ça va être les industriels qui relarguent malheureusement aussi des plastiques. Donc c'est essentiellement la terre en fait.
Mathieu Vida.
Oui, Jean-François Guiglione, comment est-ce que vous réagissez vous face à l'industrie du plastique qui semble avoir repris du poil de la bête pendant le confinement? C'est une vraie menace très sérieuse pour les écosystèmes.
Alors là, on a eu pendant la période du Covid un peu des lobbies du plastique qui sont élevés. Alors ce qu'on a su pendant la période du Covid, c'est par exemple la Fédération professionnelle de l'emballage, eux ont déclaré en fait des chiffres qui montraient qu'on a une augmentation de 30% de la production d'emballage alimentaire, d'hygiène. Donc on a une utilisation massive de gants, de bouteilles individuelles de gel hydroalcoolique qui sont emballées de plastique, des bouteilles d'eau en fait qu'on remplace des carafes des restaurants par exemple. Donc là en fait de plus en plus, c'est pas seulement les masques, c'est de manière générale une augmentation de l'utilisation du plastique. Et là en fait on fait face à deux fausses idées. La première, c'est que le plastique, c'est effectivement un objet qui est, enfin un outil qui est génial puisqu'il est léger, polyvalent, il a un faible coût et il a une durabilité importante. Et c'est sur cette durabilité importante qu'on se trompe dans l'utilisation du plastique, c'est-à-dire qu'on utilise mal ce plastique puisqu'on veut faire un usage unique à partir de quelque chose qui est durable. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où il faut utiliser des substituts à ces plastiques. La deuxième fausse idée, en fait, c'est que le plastique rend le produit propre. Et là, c'est aussi faux parce que à la fois on ingère du plastique quand on boit dans une bouteille. Il y a vraiment pas de sens à utiliser des concombres bio qui sont emballés parce que la barrière, elle existe avec la peau du fruit. Et la deuxième fausse idée là-dedans, c'est que le Covid, en réalité, il survit plus longtemps sur le plastique. Il y a des études qui ont montré qu'il survivait 3 jours sur les surfaces plastiques par rapport à 24 heures sur du carton. Donc l'effet barrière, effectivement, il peut être fait avec du plastique, mais il peut aussi être fait avec d'autres emballages. Et là, en fait, pendant cette période du Covid, il y a eu une erreur, je pense, de certains lobbies qui ont entretenu un petit peu la confusion. On a notamment les convertisseurs européens du plastique qui ont demandé un sursis d'un an et une refonte des directives d'interdiction du plastique à usage unique, donc qui concernent essentiellement les pailles, la vaisselle à usage unique, les microbilles exfoliants, les sacs plastiques, et qui concernent pas du tout, en fait, les plastiques à usage sanitaire comme les masques, les gants et les seringues. Donc il y avait vraiment pas de sens, en fait, à lancer cette demande vers l'Europe et vers la France, qui heureusement a été refusée. Mais en fait, il y a eu des lobbies, en fait, qui pendant cette période ont entretenu une certaine confusion sur l'utilisation du plastique, qui en réalité, si le plastique est utile pour plein d'applications, certainement pas en fait pour l'emballage.
Merci Jean-François Guiglione d'avoir répondu à nos questions. Mathieu Vidard, de quoi parle-t-on demain dans la Terre au Carré ?
On parlera des systèmes alimentaires, Bruno.